Tiens.
Je sais pas s'il faut que je redise bonjour à chacun de nous. Mais voilà, j'ai ce bonheur de pouvoir apporter le partage de ce matin. Ça me réjouit. Et je suis d'autant plus vraiment dans la joie parce que ces derniers temps, la parole du Seigneur est vraiment comme du miel. Plus on s'y attarde, plus on y va en profondeur, plus il y a des choses merveilleuses qui nous font du bien dans le cœur, dans tout notre être. Et vraiment, c'est magnifique. Merci Seigneur, vraiment merci parce que cette comparaison, Seigneur, n'est pas vaine. Ta parole est effectivement comme du miel, Seigneur. Elle est douce, elle est agréable, elle est magnifique. Et vraiment merci pour ce plaisir que tu me donnes de pouvoir, Seigneur, recevoir, de pouvoir me délecter. Et je prie, Seigneur, que ce matin, ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, ce dont j'ai été au bénéfice depuis ces jours-ci, soit le partage de mon frère, de ma sœur, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur. Vraiment diffuse, donne ce plaisir-là et répands, Seigneur, ton esprit qui donne de capter, Seigneur. C'est dont tu veux qu'on puisse capter dans le nom de Jésus. Amen. J'avais à cœur de toujours être dans la lancée de ce que nous avons commencé depuis quelques dimanches, l'approfondissement sur le moi, famille, l'étude de David. Et ce que j'ai reçu à cœur, c'est comment les lieux et les événements ont une force capitale dans le plan de Dieu pour nos vies. Les lieux et les événements. Donc, tout au long de cette étude, déjà sur le personnage de David, nous avons vu comment les informations sur les différents récits, et on sait qu'il y a énormément, et Michel nous a entretenus pendant plusieurs dimanches sur plusieurs récits. Et ces récits, lorsqu'on les considère dans leur détail, avec attention, ont parfois une symbolique très significative. Et dans ces messages, dont Michel nous a toujours encouragés à prêter attention à ce que le texte avait comme élément répétitif, comme cadre, comme succession d'indices, voilà, parce que ce sont des éléments sur lesquels on passe parfois très rapidement, mais qui ont une importance dans la compréhension de ce que le Seigneur veut nous dire. Et donc, jusqu'à présent, ce qui m'a marqué dans ces enseignements, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la place des lieux et des événements dans le processus du travail de Dieu dans nos vies, et particulièrement dans la vie de David. Comment il peut utiliser les lieux pour nous faire évoluer, pour nous faire arriver où il souhaite. Amen. Et je sais que pour chacun de nous, Dieu a un plan, à partir d'un lieu et à partir des circonstances, pour pouvoir nous faire arriver là où il souhaite. Et si on prête attention à la vie de David, on va se rendre compte que rien n'était fait au hasard. Déjà, prenons le premier point. Un lieu, une rencontre. C'est toujours ça avec le Seigneur. Un lieu, une rencontre. Le Seigneur nous localise, il nous choisit et il nous distingue. Il peut le faire au même moment, il peut le faire de manière successive, mais il nous localise toujours, il nous choisit et il nous distingue. Dans 1 Samuel 16, verset 1, l'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Va à Bethléem. Ça, le lieu, l'endroit, c'est bien précisé. Et ce n'est pas un hasard, parce que si on comprend un peu ce que c'est que Bethléem, on va voir que ça a une signification forte. Déjà, l'apparition de Bethléem est mentionnée par Jacob lorsqu'il parlait de la mort de Rachel à Joseph. Et ça, dans Genèse 48, verset 7. Il dit à Joseph, lorsque je revenais de Padan Aram, j'eus la douleur de voir Rachel mourir au pays de Canaan, à peu de distance d'Éphrata. C'est là, sur le chemin d'Éphrata, normalement qui s'appelle Bethléem, que je l'ai enterré. Bethléem, c'était le lieu de la sépulture où Rachel a été enterrée. On peut y percevoir la douleur, la tristesse. Mais plus tard, Bethléem sera appelée la ville de David, parce que c'est de cette ville-là que naîtra le roi, notre Seigneur. Et c'est dans cette ville que Dieu choisit pour pouvoir tirer le futur roi d'Israël, en fait, à cette époque, parce qu'il fallait remplacer Saül. Et lorsqu'on remonte jusqu'à Jésus, déjà Michée 5, verset 1 dit, en louant Bethléem, « Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. » Amen. Ça veut dire que le plan de Dieu pour Bethléem était déjà conçu. Et choisissant David dans cette ville-là, cela montrait tout simplement que le grand roi venait. C'était une préparation, un processus de préparation. Et on voit que ce n'est pas un hasard que le Seigneur choisisse déjà Bethléem pour en sortir un roi qui devait conduire le peuple d'Israël avant plus tard que le roi des rois ne puisse venir de là. Dans ce texte, nous nous rendons compte que, et si nous lisons 1 Samuel 16, verset 10, Samuel est arrivé à Bethléem, il est allé dans la famille qu'on lui a indiquée. Ésaïe présenta ainsi ses 7 fils à Samuel, et celui-ci lui dit, « L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. » Puis il lui demanda, « Est-ce que ce sont là tous tes garçons ?»« Non, répondit Ésaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons aux pâtures. » « Envoie le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. » Donc, le Seigneur est celui qui vient à notre rencontre. David était là, il gardait les moutons. Et voilà que le Seigneur vient à sa rencontre. Ce n'est pas David qui est allé demander quelque chose. De loin, le Seigneur mandate quelqu'un d'aller trouver David pour pouvoir le oindre roi. Donc, dans un lieu précis et dans des circonstances bien définies par lui, depuis toujours et très souvent à notre insu. Nous ne savons même pas. Mais Dieu, il a un plan qu'il tisse. Il met en exécution progressivement. Il mandate des personnes pour ça. Nous nous rendons compte que chacun d'entre nous, nous avons bénéficié d'un plan spécial pour notre salut. Je suis sûr que si on prête le micro ici, on va tous dire comment est-ce que nous sommes venus au Seigneur. On a un témoignage spécial de notre rencontre avec lui. Mais ce dont il s'agit ici, ce n'est pas limité au cadre de notre salut. C'est au cadre de notre engagement avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a cette rencontre aussi, et c'est un peu ce que Alexis nous partageait, notre destinée. On est sauvés, première étape. Mais il nous faut entrer dans notre destinée. Il nous faut entrer dans cet appel qui fera de nous un serviteur du Seigneur. On peut constater, on peut être sauvé, on est là, on ne fait rien pour le Seigneur. C'est un choix, mais on est sauvé. Et David aurait pu dire, je connais le Seigneur, on m'a enseigné depuis toujours. Mais il fallait qu'il entre dans un autre plan, dans une autre dimension avec Dieu. Et il fallait donc cette autre rencontre-là. Et chacun de nous ici-là, nous avons besoin de cette rencontre-là. Parce que c'est une grâce. Au-delà du fait d'être sauvé de manière si spéciale pour chacun d'entre nous, Dieu vient aussi à nous pour des rencontres qui nous engagent dans ses projets. Amen. Il vient à nous pour des rencontres qui vont nous engager dans ses projets. Et ainsi, il peut nous propulser dans notre destinée, dans notre projet professionnel, dans le projet professionnel qu'il a pour nous. Lisons ensemble aussi un texte, Juges 6, verset 11. Et là, il est écrit, « L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra dans la propriété de Joas. Un homme de la famille d'Abiézer, Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Amen. Là, un lieu, une rencontre, une nouvelle fois. C'est une similitude. Mais cette rencontre-là, c'est celle qui va pouvoir propulser Gédéon dans le projet de Dieu. Amen. Gédéon connaissait le Seigneur. Certes, son père était idolâtre. Mais le Seigneur avait un plan pour Gédéon. Il vient le trouver dans l'exercice d'un travail bien précis. Un peu comme David, qui menait les moutons. Et si on prête bien attention à ces deux événements, on peut conclure que les lieux que nous fréquentons, où nous nous retrouvons très souvent, et ce que nous y faisons, compte beaucoup aux yeux de Dieu. Ce n'est pas anodin. Ce qu'on y fait dans les lieux que nous fréquentons, ça compte beaucoup aux yeux de Dieu. C'est comme une sorte de préparation. Gédéon battait le blé, le cachait pour pouvoir nourrir sa famille. David menait le troupeau en pâture pour préserver le bien. C'était des exercices. Et là, on peut voir le cœur, on peut voir le courage, l'attitude, ce à quoi et vers quoi nous sommes tournés, nous sommes portés. David, très jeune, se retrouvait seul en pâture avec le troupeau. Et c'est un cheminement. De berger, il va être cheminé à roi d'Israël. On va chercher David dans l'exercice d'une fonction qui honore Dieu. Parce que le Seigneur lui prend soin du troupeau. David qui prend soin du troupeau, ça c'est un travail qui honore Dieu. Une activité pastorale. Paître le troupeau va être transformé à paître le peuple et conduire le peuple de Dieu. On a ici l'image des bergers qui sera chaque fois évoquée pour faire référence à l'office royal. Amen. Il prend soin du peuple de Dieu. Gédéon, face à l'oppression des Madianites, accomplit un travail pour le bien de la multitude. Battre et cacher le blé pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans l'un comme dans l'autre cas, on peut percevoir des personnages de courage, des cœurs généreux, compatissants, pleins de volonté pour le service, l'amour pour l'autre et ne pensant pas uniquement à soi. Rendre service, prendre soin de sa famille, Dieu a un plan de salut pour nous, mais il a aussi un plan professionnel dans son œuvre. Amen. Dieu a un plan professionnel dans son œuvre. Et il faut qu'on puisse s'engager. C'est vraiment indispensable. On ne peut pas avoir de carrière professionnelle dans le monde sans aussi l'avoir avec Dieu. Il faut donc répondre à cet entretien. Et on va voir tout à l'heure comment les circonstances que Dieu met devant nous sont aussi des éléments qui nous permettent de pouvoir nous engager, de pouvoir signer le contrat d'embauche, comme on dit. Amen. Considérons les passages de 2 Chroniques 16, verset 19, qui dit « Car l'Éternel parcourt toute la terre et regarde du regard pour soutenir ce dont le cœur est tourné vers lui. » Et dans Ézéchiel 22, verset 30, il dit « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays. » Et moi, je pense qu'aujourd'hui encore, le Seigneur parcourt la terre. Il cherche toujours et toujours des hommes et des femmes. Il parcourt certainement toute l'île de France. Il parcourt certainement les Yvelines. Et peut-être à cet instant, il parcourt aussi le 7 boulevard de la plage. Amen. Vous connaissez le 7 boulevard de la plage? Ah, ben on y est. Et certainement, le Seigneur a le regard ici, en ces lieux maintenant. Dieu nous sauve pour un but. Il est important de pouvoir dépasser le cadre de notre salut. Dépasser ce cadre-là qui nous offre, bien évidemment, une place avec lui dans l'éternité. Dépasser ce cadre-là pour pouvoir nous engager dans son œuvre. Être co-ouvrier avec lui. Je pense pour ma part que David l'avait bien compris et s'est mis et ne s'est pas mis en réserve. Pas du tout. Une fois qu'il a compris, il s'est vraiment engagé. Regardons autour de nous, au nombre de personnes que nous constituons aujourd'hui sur la terre. Je ne sais pas, on est 8 milliards. Ce n'est donc pas qu'il n'y ait pas des gens qui peuvent se mettre à l'œuvre. Mais ce qui nous interpelle, c'est de savoir s'il y a des personnes selon le cœur de Dieu. Des David, des Gédéon, des Esther et autres, qui se retrouvent à l'endroit propice, accomplissant ce que le Seigneur agrée, ayant des attitudes et des qualités qui lui conviennent. C'est ça qui est le plus important. Dieu parcourt, bien évidemment, Mais est-ce qu'ils rencontrent des personnes qui sont à l'endroit où il faut, accomplissant ce qu'ils veulent et ayant le cœur qui l'attend? Ça, c'est le plus difficile. En préparant ce message, je me suis rappelé d'une sœur qui faisait partie de mon groupe de maison lorsque j'étais responsable un peu avant. Et cette sœur-là, je me demandais pourquoi très souvent le dimanche, elle ne pouvait pas être à l'église elle s'illustrait un peu par ses absences. Je voulais juste en savoir plus. Ça pouvait donner sujet des prières. Et pendant la conversation, très honnêtement, elle me dit, Edouard, je ne te cache pas, ma semaine est souvent chargée. J'ai besoin de me défouler. Alors le samedi, je vais en boîte de nuit. Je dis, d'accord. OK. Bon, je ne pouvais pas juger. J'ai tout simplement compris et justifié pourquoi le dimanche, je ne pouvais pas la voir à l'église et tout. Mais quand même, et vraiment, je veux qu'on comprenne, hein, je ne juge pas du tout. Mais je me pose quand même la question. Est-ce que c'est le lieu propice pour la rencontre lorsqu'on essaie de voir ça à la lumière de David et de Gédéon? Bien évidemment, Dieu sort des personnes dans des endroits terribles pour le salut, mais pour l'enrôlement dans son œuvre, est-ce que c'est l'endroit de préparation pour que Dieu vienne à notre rencontre pour nous confier une mission, pour nous confier une responsabilité? Je me pose juste la question, bien-aimé. Et cette question aussi, je peux te la poser. Est-ce que très souvent, dans ton quotidien, tu es à l'endroit où le Seigneur souhaite te rencontrer pour te confier la mission qu'il a préparée pour toi? Ou est-ce que tu passes la majeure partie de ton temps et que y fais-tu? Penses-tu que c'est le lieu approuvé par ton Dieu pour vos rencontres professionnelles? Est-ce que ce lieu favorise ta préparation pour ton engagement? Vraiment, je veux qu'on puisse s'interroger sur ces questions-là. Je me suis vraiment interrogé pendant tout le temps que je préparais ce message. Est-ce que le lieu que je fréquente favorise vraiment cette rencontre avec le Seigneur pour mon engagement dans son œuvre, pour ma préparation? De là où nous nous trouvons, il est important aussi de discerner les circonstances et agir selon la volonté de Dieu. Ça, c'est un autre aspect. Discerner les circonstances. Agir selon la volonté de Dieu. Certains lieux que nous fréquentons ou dans lesquels Dieu nous place participent à l'accomplissement de son plan pour nous. Ce sont des lieux qui font partie d'un ensemble d'éléments dont il se sert pour œuvrer dans nos vies et nous faire entrer dans notre destinée. On a des circonstances bien précises qui participent à cela. Préparer avec minutie, longtemps en avance. Ces circonstances, lorsqu'on arrive à les comprendre et à les saisir selon la perspective du Seigneur, changent radicalement notre vie. Je crois que ce sont des processus dynamiques de Dieu pour notre développement en tant que ses enfants. On va regarder à un événement qui a fait entrer David dans une autre dimension. Lisons ensemble 1 Samuel 17. Je vais essayer de lire pour nous, c'est un peu long. Mais on va le lire à partir du verset 8. Il dit, il se campa face au groupe israélite et leur cria. Ça, c'est Goliath qui vient défier le peuple. Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta, je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous affronterons en combat singulier. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Or, David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Judée nommé Esaïe et qui avait 8 fils. Au temps de Saül, Esaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. C'est à cette époque qu'Ésaïe dit à son fils David, « Prends cette mesure de grand rôti et ses 10 pains et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi ces fromages, tu les donneras aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu me rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne face aux Philistins. » Et voilà David qui va trouver ses frères avec le butin. Si on continue avec le verset 25, David est sorti, il a défié. Mais le verset 25 nous dit, « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ? » dit l'un d'eux. Ça, c'est l'un des soldats qui parle. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ? Quel est donc cet ainsi consigne pour oser insulter le bataillon du Dieu vivant ?» David prend connaissance du défi lancé par Goliath. Les autres soldats entendirent Goliath et ils tremblaient. La peur les saisit. On s'attend à ce que David soit dans la terreur aussi. Mais ce qui est important pour nous de pouvoir saisir ici, c'est que Goliath faisait partie du plan de Dieu. Amen. Et je me suis posé la question, mais quel timing ? David serait peut-être venu 30 minutes plus tôt, il aurait déposé le paquet, il serait parti, il n'aurait jamais entendu. Il serait venu peut-être 30 minutes plus tard, même chose. Mais il vient au moment précis. Goliath sort pour narguer le peuple, l'armée d'Israël. Il faut que David entende ce qui se passe. Il faut qu'il soit témoin de ça. Goliath donc fait partie de ce processus que le Seigneur a mis en place pour pouvoir toucher David. Parce qu'il faut toucher pour créer quelque chose en nous. Si on n'est pas touché, si on n'est pas chamboulé parfois dans notre être, on ne peut pas facilement s'engager. Et ce qui est aussi important à considérer ici, c'est que lorsque Goliath parle, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé. Je ne sais pas si David était discret ou je ne sais pas si voilà, il était préoccupé par quelque chose. Il a fallu un autre stimulateur. Il a fallu que quelqu'un apporte un accent particulier. Et cette personne, c'est le soldat qui était là. Il répète les paroles de Goliath. Et parfois, c'est notre cas. Hein. On peut passer là dehors, on est discret, pourtant il y a un événement terrible qui se passe. Il faut peut-être que quelque chose se produise pour qu'on tourne la tête et qu'on prête attention à ça. Et je pense que peut-être si Goliath seul avait parlé, David aurait certes écouté, mais il serait encore peut-être resté indifférent. Mais il a fallu que cette autre personne appuie. C'est un peu comme si le Seigneur avait constaté, Goliath a parlé, mais ça ne suffit pas. Peut-être c'est entré, mais ça n'a pas encore produit de l'effet. Et lorsque cet autre soldat parle, il termine en disant quelque chose. Il y aura une récompense. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai considéré un peu les enfants lorsqu'on les confie une tâche. Et Chimène, très souvent à la maison, elle dit souvent ça aux garçons. Lorsqu'elle a peut-être perdu quelque chose, celui qui trouve, je lui donne. Si elle dit tout simplement, celui qui trouve, chacun est occupé à faire ce qu'il veut. Mais si elle ajoute, je lui donne, hein, tu as dit quoi? Et là, tout le monde s'engage. Il faut qu'on trouve rapidement parce qu'il y a une récompense au bout. Je ne dis pas que David ici était calculé la récompense, mais c'est un élément de plus qui a pu titiller son esprit pour qu'il puisse davantage mesurer ce qu'il fallait faire. Il y a une récompense au bout. C'est ça un peu comme cette hameçon qui vient captiver son attention. Et là, vraiment, ça m'a marqué parce que ça aussi, c'était le processus de Dieu pour que David comprenne et puisse fortement s'engager. Lorsque nous n'avons pas vraiment les yeux ouverts ou le cœur saisi et préoccupé par les affaires du Seigneur, il place devant nous certains événements pour nous sortir de notre zone de confort, de notre repos, de notre manque d'engagement, afin de vraiment prendre le chemin qu'il a tracé pour nous et ainsi accomplir le projet qu'il a conçu pour notre vie. Il place devant nous ces événements. Il place devant nous des personnes même qui nous avertissent. Si nous lisons un autre texte, il y a une similitude dans Exode 2, versets 11 à 14. La parole de Dieu nous dit, « Le temps passa. Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des corvées qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il revint et aperçut deux Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Mais celui-ci répliqua, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Alors Moïse prit peur. Il comprit que l'affaire s'était ébruitée. Et on connaît la suite. Moïse s'enfuit dans le désert. Le confort du palais. Je suis certain, en fait, je pense pour ma part que s'il n'avait pas assisté à cet événement, s'il n'avait pas été touché dans son cœur par la souffrance de son peuple, certainement il entendait que le peuple d'Israël souffre, mais il n'avait pas encore été témoin. Il a fallu que le Seigneur place cet événement devant lui pour lui dire, voilà ce qui se passe. Et là, il ne pouvait pas résister. Mais il a fallu aussi cet événement pour qu'il puisse sortir du confort du palais, pour se retrouver en formation dans le désert et dans la fuite comme il était. Encore un événement important là. Et je ne sais pas quel effet ça vous fait, mais je trouve extraordinaire comment Dieu parfois peut nous sortir de là où nous sommes parce qu'il a un plan, il a un projet, il avait un plan conçu pour Moïse. Mais il fallait qu'il passe par là. Moïse avait certainement entendu déjà que le peuple s'ouvre. Mais l'engagement n'était pas là. Ah, le confort du palais le saisissait. Il ne pouvait pas lâcher tout le bien qu'il y avait dans le palais. Il a donc fallu cet électrochoc là. Il a fallu cet événement fort pour qu'il se rende compte que, mais tiens, il ne faut pas seulement que j'entende, il faut que je me mette en action. Nous aussi, on a besoin de ça. Et je sais que le Seigneur n'est pas avare des circonstances pareilles dans nos vies. Il les place devant nous. Et si on lit encore un autre texte, j'aime bien comparer un peu plusieurs événements pareils pour vraiment saisir la profondeur des choses. Dans Esther 2, versets 21 à 23, à cette époque, alors que Mardochée exerçait des fonctions au palais impérial, deux eunuques de l'empereur, Bigthan et Teresh, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, furent exaspérés par l'empereur Xerxès et cherchèrent à l'assassiner. Mardochée en eut connaissance et il en avertit l'impératrice Esther, qui mit l'empereur au courant de la part de Mardochée. Après enquête, l'information se révéla exacte. Les deux coupables furent pendus à une potence et l'affaire fut consignée dans le livre des annales en présence de l'empereur. Mardochée qui siège là, et là, il faut que le Seigneur le rende témoin d'une circonstance. Et vous connaissez la suite. C'est cet événement qui va pouvoir élever Mardochée et contribuer à délivrer le peuple d'Israël. Amen. S'il n'y avait pas cet événement, certes, le Seigneur peut faire comme il veut, bien évidemment, mais la parole de Dieu nous montre cet événement parce que ça a une importance. Comment le Seigneur procède de David, de Moïse, de Mardochée avec le peuple. Intéressons-nous, bien voilà, un peu comme je disais, dans 1 Samuel 17, 15, très souvent, ce que le Seigneur veut nous montrer, ce que le Seigneur veut nous faire voir, il passe par différents moyens et par différentes personnes aussi. Parfois, nous sommes distraits, préoccupés, pas du tout concernés. Notre indifférence est parfois plus grande que la réalité si près de nous. La réalité si près de nous. on est davantage gagné par une sorte d'indifférence. On n'est pas concerné. On respecte l'autre. On respecte la vie de l'autre. On ne veut pas s'immiscer. Et pourtant, le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur utilise des amplificateurs pour vraiment capter notre attention et nous saisir. Et très souvent aussi, la récompense qui est au bout de l'effort à fournir est importante. Ce n'est pas forcément l'élément déterminant notre engagement, mais cela compte dans la balance. Et c'est pourquoi je pense dans Apocalypse 3:21, ou bien plusieurs fois dans Apocalypse, à celui qui vaincra, je donnerai, je ferai. Il y a toujours une récompense. Et je pense que c'est ce qui nous stimule aussi dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Si le Seigneur nous disait seulement vous êtes sauvés, peut-être on n'aurait pas assez de courage, de détermination, de ténacité. Mais parce qu'on sait qu'il y a plus tard une rencontre avec lui, on sera là-haut. Et lorsqu'il nous dit, je vous prépare une place, ah, ça nous réjouit, je serai là-bas. Ça nous galvanise, ça nous tient, les amis. Moi, je pense, il faut cette récompense-là. Ce n'est pas forcément à cause de cette récompense, parce que ce que le Seigneur fait déjà pour nous est très grand. Mais ça compte, c'est dans la balance. On ne peut pas l'ignorer. Et ce qui est aussi à retenir ici, c'est le respect de Dieu. Et surtout, c'est important de prendre en considération cela. Le respect de Dieu vis-à-vis de nous. Certes, il y a tout ce que le Seigneur plante comme décor pour capter notre attention. Mais c'est extraordinaire de voir combien il agit avec nous. Lui qui est souverain, qui a toute autorité et tout pouvoir sur nous, qui est en droit même de nous obliger, de forcer notre volonté. Il nous accorde ainsi grand respect et n'abuse aucunement de nous, de sa position. Il nous place des événements. Et c'est à nous de réagir. C'est à nous d'apporter la réponse. Jamais Dieu ne nous force. Jamais Dieu n'a forcé David ni Gédéon. Il a placé des événements. Il a placé des circonstances. Et chacun a senti que lui, c'était le moment. Il faut que je m'engage. C'est magnifique de voir combien on a un Dieu qui nous respecte tant, qui prend en compte ce que nous sommes au milieu de tout cela. Il a besoin de nous, mais il nous laisse le choix. Il nous expose tout simplement les faits et nous laisse de pouvoir, oui ou non, nous engager et agir. Bien évidemment, il nous encourage et il sait aussi comment nous toucher là où il faut. C'est sûr. Notre sensibilité, Dieu sait aussi comment nous toucher. Mais toujours, il reste dans le respect de notre liberté. Amen. Il reste dans le respect de notre liberté. C'est la situation de David, c'est la situation de Mardochée. Rappelons-nous, c'est la même chose pour cette petite fille qui a pu sauver ce grand général qui était atteint de la lèpre. Elle aurait pu dire, je me tais. Mais elle a pris l'initiative de parler et ça a sauvé la vie à quelqu'un. Et c'est aussi la situation de plusieurs d'entre nous, bien-aimés. Mais pour toi, qu'en est-il? Est-ce que tu vas ouvrir les yeux, les oreilles? Est-ce que tu vas te laisser toucher, te lever, t'engager? Moi, je pense que Dieu le fait avec tous ses enfants. Peut-être à des degrés, des intensités ou des niveaux différents. Je crois qu'il place devant chacun de nous des situations qui sont destinées à nous interpeller, à nous inciter à l'engagement et à l'action. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que je suis préoccupé par l'état de propreté dans l'Église? Est-ce que ce n'est pas le début de quelque chose? Pourquoi je suis préoccupé par le devenir des enfants dans cette société? Pourquoi ma sensibilité est touchée par ces événements, par ces choses-là? Pourquoi le salut de ceux qui passent là a une importance dans mon cœur? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui est déjà en train de vouloir nous éveiller, de vouloir nous montrer que tiens, il y a ce domaine où tu peux agir, où tu peux t'élever et faire quelque chose. Parfois, autant de sujets, autant de situations qui sont destinées à nous engager. En parallèle, lorsque nous sommes témoins d'une situation à laquelle nous sommes étrangers et qui nous concerne moins ou indirectement, Une situation qui survient et nous touche alors que nous n'avons rien demandé ou souhaité, je pense qu'il est bien de se poser la question. Seigneur, comment puis-je me lever pour agir? Quelle réponse je peux être? Quelle place je peux prendre? Très souvent, on a tendance à protéger notre sensibilité. Oh Seigneur, tu sais que ces choses-là, je n'aime pas, ça me bouleverse. Je suis si sensible à ça. Ok, on veut protéger, on veut protéger notre sensibilité. Mais pourquoi le Seigneur a choisi de nous faire témoins de ces choses-là? On ne se pose pas la question, mais on se rend juste compte qu'on est bouleversé, on pleurniche, on crie, on pleure. Oh Seigneur, tu sais que je ne supporte pas ça. Et pourtant, tu choisis de me montrer ça. Mais tu ne te poses pas la question, mais Seigneur, si tu me montres ça, est-ce que c'est peut-être pas pour que je prenne position? Et si David avait pleurniché, oh Seigneur, tu sais déjà que je suis préoccupé par les moutons et tout, ce n'est pas facile. Pourquoi tu me montres encore Goliath? Je ne suis pas sûr qu'il serait au niveau où il a été. Protéger notre sensibilité, bien-aimé, bien, je ne dis pas qu'on n'est pas des êtres sensibles, la sensibilité c'est le Seigneur qui nous donne. Mais coûte que coûte, à tout prix, protéger la sensibilité et mettre ça en avant pour justifier nos refus d'engagement, je trouve que c'est pas très digne parfois de notre part. Même si c'est des situations qu'on ne supporte pas. Essayons tout simplement de comprendre pourquoi le Seigneur nous les expose. Pourquoi à un moment précis on est témoin de ces situations-là. Pourquoi on est même acteur dans ces situations-là. Posons-nous la question. Tu me permettras, Colette, je sais que ces derniers temps, on a souvent eu des conversations. Tu te dis, Seigneur, je ne sais pas, surtout avec les événements qu'on a vécu, tu t'es toujours posé la question. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a rendu témoin. Pourquoi j'étais là à cet instant précis? Mais, voilà. Et là, tu as trouvé des réponses avec ton engagement. Tu as compris qu'il y avait une place et un rôle à jouer. Amen. Et je t'ai vu aussi te lever et prendre position. Et ça a davantage bouleversé ta vie de prière et ta présence devant Dieu. Ça fait du mal, bien évidemment. Mais le bien qu'on y tire et ce qu'on peut faire aussi autour de nous est très important. Discerner ce que le Seigneur veut nous dire au travers des circonstances. Amen. Et je pense que ça, c'était l'une des forces de David. Lorsqu'il y avait des circonstances, il discernait ce que le Seigneur voulait faire. Lorsqu'il a la possibilité de pouvoir tuer Saül, mais il ne le fait pas. Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Parce que lui-même, il avait reçu l'onction. Comment peut-il le faire? À cet instant, il y a ce discernement fort et puissant qui se produit en lui. Donc, sachons faire bon usage, bien-aimés, des circonstances auxquelles nous sommes parfois exposés pour accomplir la volonté de Dieu ou pour le laisser accomplir son plan dans nos vies. David l'avait bien saisi et il faisait de chaque circonstance rencontrée des moyens pour grandir et être l'homme dont il était. Et on peut voir aussi à travers le message que Hélène nous a partagé la semaine passée, les épreuves et tout ce qu'il a vécu étaient tout simplement des stimulateurs. Je souhaite partager un autre point avec nous. Rien n'est anodin dans le plan de Dieu. Parfois, nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous utilise pas. On veut faire des choses. On veut bien faire des choses, mais il ne nous révèle rien du tout. Demandons-nous aussi si dans notre quotidien, nous faisons ce qui correspond à son cœur, ce qu'il agrée. Simple chose que le Seigneur Jésus disait, si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche aux petits, au plus petit de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne paiera pas sa récompense. Des choses simples, toutes petites. David est toujours en fuite. Revenons à David. Saül le poursuit. Il vient de laisser la vie sauve à Saül, mais il ne peut pas rentrer chez lui. Sa maison est surveillée, sa famille est surveillée. Dans 1 Samuel 25, verset 1, il dit, « À cette époque, Samuel mourut. Et tout Israël se rassembla pour célébrer son deuil. On l'enterra chez lui à Rama. David se mit en route et se retira au désert de Paran. Il se retire au désert de Paran. Quel milieu, hein? Armé comme il était, je me suis demandé, mais David avait la possibilité de se choisir une bonne ville et de l'occuper, parce que quand même, il avait des soldats. Il pouvait, un peu comme dans les guerres, vous voyez un peu ce que les Russes font en Ukraine, là? Ben, ils se servent dans le supermarché, ils prennent les meilleurs morceaux, ben, ils se privent pas, hein? Quand on occupe un territoire, bien évidemment, on a droit au meilleur. On choisit les meilleurs supermarchés et tout. Mais David, bien armé avec des soldats, il se retire plutôt dans le désert. Bizarre, non? Je me suis dit, quelqu'un qui a quand même une force de dissuasion pareille, choisir le désert comme lieu de refuge. Mais tout ça entre dans le plan de Dieu, bien-aimé. Il pouvait trouver un meilleur endroit où se réfugier. Mais si on prête attention à ce qui va se passer dans ce milieu-là, moi, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué. Il est bien évidemment allé dans le désert. Et je me demande si David était conscient en allant vraiment dans ce milieu-là. Dans 1 Samuel 25, verset 14, ça, c'est le témoignage d'un serviteur. David, précédemment, envoie demander des biens à Nabal. Nabal refuse. Et David est décidé à en finir avec lui. Mais entre-temps, il y a un serviteur de Nabal qui couvre la femme de Nabal. L'un des serviteurs de Nabal alla informer Abigaïl de ce qui s'était passé. Il lui dit, « Voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre mère, mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont jamais fait aucun mal et rien n'a disparu pendant tout le temps que nous étions auprès d'eux dans la campagne. Il nous a protégés comme un rempart, nuit et jour. » Pendant tout le temps que nous avons passé avec eux auprès des moutons. Amen. La présence de David. Mais regardez quel bien fou ça a fait à ceux qui étaient là. Je ne sais pas si David lui-même était conscient que sa présence dans le désert avait une utilité importante pour ses bergers, pour ses hommes avec leur troupeau. Et ce que je veux davantage nous faire remarquer ici, bien-aimés, et ce dont je souhaite vraiment que nous puissions retenir, c'est la qualité du témoignage de ce serviteur. Quelqu'un qui sort du lot, qui sort de la multitude, de la foule, pour faire connaître ce que tu as fait. Tu ne l'as pas fait pour être vu, tu ne l'as pas fait pour que ce soit connu. Mais, bizarrement, quelqu'un qui sort du lot et qui rend témoignage de tes œuvres, de tes actions. Parce que tu t'es trouvé là. Et parce que tu as accompli ce que le Seigneur voulait que tu accomplisses. De tous les lieux que tu fréquentes, j'aimerais te poser cette question. Quel témoignage peut être rendu à ta faveur? Quel témoignage peut être rendu à ta faveur? Est-ce que quelqu'un peut sortir comme ce serviteur était sorti pour rendre un si bon, grand témoignage pour toi? Est-ce que tu formes une muraille de protection? Est-ce que tu es un rempart pour quelqu'un? Est-ce que tu es cette défense entre les hommes et les ennemis? Est-ce que tu te tiens devant Dieu en faveur de ta famille, en faveur de ton église? Est-ce que tu es un rempart là où tu te trouves? David s'est trouvé un rempart. Il a assuré la protection. Aucun bien ne s'est perdu. Pendant tout le temps que David était là, Dieu le place là. Mais Dieu te place aussi dans des milieux. Il te place aussi dans des environnements. Est-ce que tu joues le rôle que Dieu veut te voir jouer? Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un va dire, à cause de ta présence, j'ai vu la guérison de Dieu se produire dans ma vie. J'ai vu la restauration. J'ai vu des choses se produire parce que tu étais là. Ce n'est pas à cause de toi, mais du Seigneur, bien évidemment. Mais parce que tu te trouves à l'endroit où il faut et tu fais ce qu'il faut de la part du Seigneur. Amen. On est appelé à être des remparts. Notre pays a besoin de personnes qui se tiennent sur la muraille. On se rend compte que la vie de David, à travers des âges, à travers toutes les époques qu'on traverse, continue de nous parler aujourd'hui. Bien évidemment, on connaît David dans sa force de la louange, vaillant guerrier. Mais je voulais davantage nous faire voir cet autre aspect de David qui se positionnait là où il fallait et qui saisissait les circonstances pour pouvoir avancer. Amen. C'est important aussi pour nous, être là où il faut, saisir les circonstances que le Seigneur nous donne, nous montre. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas vain, ça a une importance. Nous sommes des contemporains aujourd'hui, mais combien on est enrichi par la vie de David. On peut dire, oh, c'était une autre époque, mais qu'est-ce qui change avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui change avec nous? Bien sûr, on n'aura pas un géant devant nous, mais combien sont ces géants d'une autre manière devant nous? Est-ce qu'on va continuer de fermer les yeux, bien-aimés? Est-ce qu'on va continuer de se boucher les oreilles? Mais regardons même déjà dans l'église où nous sommes, tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on vit. Mais de quelle situation, de quelles circonstances encore avons-nous encore besoin pour dire « je me lève, je m'engage, je refuse » que l'ennemi continue de s'aimer ce qu'il est en train de s'aimer. Mais combien de situations? Et je paraphrase cette parole que le Seigneur disait. C'est Jésus qui disait, si on, il parlait de la ville de Sodome et Gomorre, je pense bien. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de cette partie-là. Oui, mais il faisait une comparaison pour dire si on avait été témoin des miracles. Voilà, à Ninive, exactement. Vous voyez, on a des situations, on n'est pas avare, le Seigneur n'est pas avare de ces situations-là, non. Il nous les place, il nous les montre pour qu'on puisse les saisir. Mais on détourne la tête, on protège notre sensibilité. On a peur de se faire heurter. On se pose des questions. Mais, bien-aimés, on a la possibilité d'être des hommes et des femmes par qui Dieu veut se glorifier. Amen. On a cette possibilité-là. On a ces occasions-là. Il faut juste imiter le comportement de David. Moi, je veux vraiment, en partageant cela, en partageant cette interpellation aussi, je veux que le Seigneur vous donne cette interpellation-là et que ce mois qu'on est en train de passer avec l'étude de David ne soit pas saisi seulement sous un angle qui nous réjouit. Bien évidemment, la louange, ça a une importance capitale. Vaillant guerrier, oui, mais les choses les plus simples, avant d'être vaillant guerrier, il faut saisir les circonstances. Il faut se trouver là où il faut. Et David l'avait compris. Amen. Bien évidemment, tout n'était pas toujours rose. On va le comprendre. Et je suis aussi en train de travailler sur cet autre aspect. Parce qu'on va se rendre compte, et j'ai eu l'accord de Michel là-dessus pour pouvoir prolonger cet enseignement, on va se rendre compte que David, forcément, ne se trouvait pas toujours là où il faut. Il ne saisissait pas toujours les circonstances qu'il fallait. Mais les conséquences sont dramatiques, catastrophiques. Lorsqu'on n'arrive pas à être là où il faut et à saisir les circonstances qu'il faut. Amen. On peut être responsable de beaucoup de choses. Et j'aurai cette joie de revenir pour vous partager ce deuxième volet. Mais au moins pour ce matin, retenons qu'il faut être là où le Seigneur nous attend et laisser nos cœurs être touchés. Amen.
Amen.
Merci. Seigneur, tu es le Dieu qui crée des événements, des circonstances. Et tu es le Dieu qui nous positionne comme tu veux, là où tu veux. Nous avons vu, Seigneur, que rien ne vient avec toi et rien ne le fait du hasard. Mais tout est planifié, calculé par toi. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous ayons cette sensibilité que David avait, de se trouver là au meilleur endroit et de pouvoir saisir les circonstances. Saint-Esprit, remplis-nous de ce discernement. Remplis-nous de cette capacité à reconnaître quand tu nous parles au travers de tout ce qui nous entoure, de ce qui nous arrive. Qu'on puisse, Seigneur, y trouver des éléments d'engagement, des éléments pour nous lever et répondre à ton appel. Seigneur, Moïse l'avait compris aussi. Bien évidemment, on peut approfondir la réflexion, mais si on s'en tient, Seigneur, à ce qui s'est passé, il fallait cet événement pour qu'il puisse, Seigneur, quitter le palais. Il fallait cet événement devant David, Seigneur, pour que son courage prenne encore un autre pan supplémentaire et qu'il puisse, Seigneur, se mettre devant Goliath. Nous aussi, Seigneur, nous aussi, nous avons besoin de ces circonstances et tu nous les donnes. Ce qui reste à faire, Seigneur, c'est qu'on puisse s'engager, se lever, prendre position. Seigneur, tu nous attends, Seigneur, dans des domaines différents. Et je prie que tu accordes à chacun, selon les circonstances que tu places devant lui, de pouvoir discerner, Seigneur, son domaine d'action. Et que chacun et que personne ne se réserve. Et que personne, Seigneur, ne se protège. Et que rien aussi ne nous accapare et ne nous détourne, Seigneur. Vraiment, c'est ma prière. Merci encore pour ta parole qui est vraiment du miel, Seigneur. Et je te loue pour ce que tu vas faire dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, Seigneur. Mais c'est parce que tu vas lever des hommes et des femmes pour être des remparts, des guerriers, des personnes, Seigneur, qui s'engagent, des personnes qui accomplissent tout simplement la destinée que tu as pour eux. Merci, Seigneur. Amen. C'est toi. Ah, d'accord.